bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington, chez Robin Dorsil. Dans quelques minutes, nous vous proposerons un segment spécial à l'occasion du 238e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Mais d'abord, le point de l'actualité. On commence par la Coupe du monde de football France-Allemagne au Temple du football, le célèbre Maracana de Rio. Rendez-vous manqué avec l'histoire pour les Bleus. Nicolas Pineau, notre envoyé spécial à la Coupe du monde.
Et oui, le match qui s'achève est élimination de l'équipe de France. L'Allemagne se qualifie pour les demi-finales grâce à un but de Hummels inscrit à la 13e minute sur un coup de pied arrêté. L'équipe de France aurait pu mieux faire, mais l'animation offensive n'était pas vraiment à la hauteur. Ce vendredi au Maracana, les Allemands qui se qualifient pour la demi-finale et qui rencontreront le vainqueur de Brésil-Colombie. Le match se déroulera à 17h, heure locale, ici à Fortaleza où je me trouve. Évidemment, tout le Brésil espère que la Seleção se qualifiera. Nicolas Pineau, Fortaleza pour la Voix de l'Amérique.
Merci Nicolas. Nicolas Pineau, envoyé spécial du service francophone de la Voix de l'Amérique à la Coupe du Monde au Brésil. Retrouvez-le pour des commentaires et plein de notes intéressantes des couloirs du Mondial sur le site voabrésil2014.com. Ce vendredi 4 juillet ramène le 238e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Partout à travers le pays, les Américains célèbrent cet anniversaire avec des défilés, des pique-niques, des feux d'artifice, des rodéos et des concerts. À cette occasion, le président Barack Obama a mis l'accent sur la diversité qui a marqué toute l'histoire de l'Amérique.
Those early patriots may have come from different backgrounds and different walks of life, but they were united by a belief in a simple truth.
Monsieur Obama a souligné que les pères fondateurs, ces premiers patriotes, ne partageaient pas les mêmes origines, mais ils étaient tous unis par leur foi en une simple vérité, que nous avons tous été créés égaux. Dans un message au président Obama, le président russe Vladimir Poutine a émis le vœu de voir de meilleures relations s'établir entre Washington et Moscou. Signalons aussi que cette année, les festivités du 4 juillet pourraient être perturbées en certains endroits de la côte Est par la première tempête de la saison, l'ouragan Arthur.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Quatre Égyptiens soupçonnés d'appartenir à la mouvance islamiste sont morts ce vendredi en manipulant des explosifs et un adolescent a été tué dans des heurts entre la police et des manifestants, ont annoncé les responsables de la sécurité cités par l'agence France-Presse. La police avait dispersé hier plusieurs manifestations à l'appel des frères musulmans à l'occasion d'une journée de la colère en Égypte, un an après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi. Au Nigeria, le gouvernement assure qu'il fait des progrès dans la recherche et la libération éventuelle de plus de 200 lycéennes enlevées par les extrémistes islamistes de Boko Haram en avril dernier. Mais Bashiru Yusuf, un porte-parole du groupe d'activistes qui n'a cessé de fustiger les efforts des autorités nigérianes depuis le rapt, souligne que la vigilance reste de rigueur tant que les lycéennes ne seront pas libres. Le gouvernement nigérian, qui affirme savoir où sont détenues ces jeunes filles, a dit que monter une opération de sauvetage pourrait causer leur mort. Un kamikaze a fait exploser aujourd'hui une charge placée à bord de son véhicule à une position de l'armée au nord de Bagdad, en Irak, faisant au moins 15 morts, dont des soldats et 25 blessés. C'est ce qu'indique l'AFP, citant des sources policières et médicales. L'attaque est survenue à 15 km au sud de la ville de Samara, dans la province de Salahedin, où les insurgés sunnites menés par les djihadistes de l'État islamique se sont emparés de la capitale Tikrit et d'autres zones dans leur offensive lancée le 9 juin. En Ukraine, le président Petro Poroshenko a déclaré que son gouvernement est prêt à tenir demain une nouvelle série de négociations avec les dirigeants des séparatistes de l'Est russophone et les autorités de Moscou. M. Poroshenko dit avoir informé la chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Catherine Ashton, qu'il a suggéré un endroit et une date, et il attend maintenant la confirmation de l'autre camp. Auparavant, ce vendredi, le président ukrainien avait discuté de la crise au téléphone avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande. Affrontement à Jérusalem-Est entre la police et des manifestants palestiniens, plusieurs milliers de personnes assistaient aux funérailles et à l'inhumation de Mohamed Abu Khoudaïr, le jeune palestinien enlevé et tué dans un acte apparent de vengeance. Sa mort a provoqué deux jours de manifestations et la police israélienne se prépare à d'autres mouvements de protestation après les funérailles de ce vendredi. Les autorités disent mener une enquête pour déterminer si le meurtre de Khoudaïr est un représailles à un acte similaire contre 3 adolescents israéliens dont les corps ont été retrouvés cette semaine en Cisjordanie. Le président chinois Xi Jinping a dénoncé ce qu'il appelle l'agression coloniale barbare du Japon contre son pays et la Corée du Sud. Poursuivant sa visite de 2 jours à Séoul, M. Xi a rappelé devant un groupe d'universitaires l'énorme souffrance endurée par la Chine et la Corée dans la première moitié du XXe siècle. Hier, Xi Jinping et son homologue sud-coréenne Park Geun-hye ont pris l'engagement de renforcer leur coopération et travailler à la signature d'un accord de libre-échange avant la fin de cette année. Le Pakistan devrait abroger sa nouvelle loi antiterroriste. C'est ce que suggère du moins le groupe de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Les partisans de cette législation disent qu'elle est nécessaire à des enquêtes et des actions judiciaires plus rapides sur les cas présumés de terrorisme. Ses adversaires, au contraire, pensent qu'elle peut être utilisée pour réprimer l'opposition politique et toute critique du gouvernement pakistanais. Un spécial 4 juillet, un programme présenté par Claude Porcella, en compagnie de l'historien André Caspi, grand spécialiste de l'histoire des États-Unis. Vous écoutez La Voix de l'Amérique.
C'est le 4 juillet 1776 que la déclaration d'indépendance est, après de longues semaines de négociations, enfin approuvée. Sa rédaction avait été confiée à Thomas Jefferson, réputé pour sa belle plume. Il y avait travaillé dans une modeste chambre louée dans la maison d'un entrepreneur local. Je me suis rendu récemment à Philadelphie et j'ai pu voir tous ces hauts lieux de l'histoire américaine où tant de décisions capitales ont été prises. L'ancienne assemblée de la Pennsylvanie, rebaptisée plus tard Independence Hall, où les représentants des 13 colonies ont tenu toutes les délibérations devant conduire à la déclaration d'indépendance, a été restaurée avec fidélité. Et si l'on ferme les yeux, il n'est pas difficile de reconstituer ce qui s'est passé, d'imaginer le débat passionné entre partisans et adversaires de la rupture avec l'Angleterre. John Adams, qui allait avec un petit groupe de délégués surmonter les réticences des hésitants, avait écrit à son épouse, Abigail, que le 2 juillet serait probablement la date de la future fête nationale américaine. Il s'était trompé de peu, c'est le 4 juillet qui aura finalement droit à cet honneur. Mais que s'est-il passé précisément le 2 juillet? C'est ce que j'ai demandé à l'historien André Caspi, grand spécialiste des États-Unis à l'Université de Paris.
Le 2 juillet 1776, le Congrès adopte la version finale de la déclaration d'indépendance. Mais cela dit, il ne faut pas oublier que la guerre entre les colonies et la métropole a commencé le 19 avril 1775, c'est-à-dire 15 mois auparavant. Il a donc fallu 15 mois de conflit pour que les colons décident de rompre complètement avec la Grande-Bretagne. Alors, le 2 juillet, le Congrès vote sur l'indépendance. Il faut d'ailleurs reconnaître que tous les délégués des colonies ne sont pas du même avis. Par exemple, la Caroline du Sud n'a pas voté dans un premier temps pour l'indépendance. Elle s'y est ralliée par la suite. Ça a été le même cas pour le Delaware. Et puis, le 2 et 3 juillet, on a examiné le contenu même de la déclaration. Et c'est le 4 juillet que la déclaration a été finalement adoptée dans la version que nous connaissons. Et d'ailleurs, là encore, il n'y a pas complètement unanimité, puisque le New York s'est abstenu. En revanche, cette déclaration a été signée par le seul président du Congrès, qui était John Hancock. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, en anglais américain, lorsque l'on veut désigner une signature, on dit que l'on met son Hancock au bas d'un document. Alors, les choses se sont poursuivies, c'est-à-dire que des copies de la déclaration ont été préparées le 5 et le 6 juillet. Elles ont été envoyées dans les différents États. Et c'est le 8 juillet que la déclaration a été lue à Philadelphie. Le lendemain, elle a été lue devant Washington et ses troupes qui se trouvaient aux abords de la ville de New York. Voilà en somme le calendrier tel qu'on peut le reconstituer. Ce qui fait qu'en fin de compte, aujourd'hui, Les Américains célèbrent l'indépendance le 4 juillet. Ils pourraient tout aussi bien la célébrer le 2. Ce serait au moins aussi exact du point de vue historique.
Henri Caspi, je me suis rendu à Philadelphie. J'ai visité ce que l'on appelle maintenant Independence Hall, qui à l'époque était l'Assemblée d'État de la Pennsylvanie. Et je me suis rendu dans cette salle où, justement, des représentants des 13 colonies ont approuvé la déclaration d'indépendance. Je dois dire que c'est une visite extrêmement émouvante. C'est une petite salle, finalement, qui n'impressionne pas particulièrement. Les tables étaient disposées en forme de demi-cercle, en forme d'hémicycle, en fait. Mais ce qui s'est passé au cours de ces quelques jours est un véritable drame humain, du moins pour certains des délégués des 13 colonies. Qui étaient-ils ?
À vrai dire, ça n'est pas impressionnant, vous avez raison de le dire, parce que ces 13 colonies représentent peu de choses et peu de monde. Au total, aux environs de 3 millions d'hommes et de femmes. 3 millions d'hommes et de femmes, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui par rapport à ce que les États-Unis sont devenus, leurs forces économiques, politiques, militaires, etc. À l'époque, ces 13 colonies ne comptent pas beaucoup dans le monde. Mais l'événement est extrêmement important parce qu'il y a rupture avec la métropole. Or, ces délégués qui siègent à Philadelphie sont en fait des Anglais d'Amérique. Alors eux-mêmes sont nés sur le continent américain, mais ils ont été élevés comme des Anglais. La plupart d'entre eux ont fait le voyage ou même plusieurs voyages dans la métropole. Ils sont de la même religion que les Anglais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement une rupture au sein du monde anglais entre une métropole qui ne comprend plus ses colonies et des colonies qui estiment que la métropole est devenue tyrannique. Et c'est en ce sens que c'est un véritable drame humain qui se joue à Philadelphie. C'est en somme une tragédie à l'intérieur d'un groupe qui apparemment est homogène.
Il leur a fallu un grand courage pour prendre cette décision parce qu'il y avait tout de même les loyalistes qui restaient attachés à la couronne. Et c'est comme une dispute au sein d'une famille finalement. Ça a dû être extrêmement pénible.
Ben, c'est d'autant plus difficile que, en effet, les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il ne faut pas rompre avec la Grande-Bretagne, représentent grosso modo un tiers des colons. Un autre tiers est composé des partisans de l'indépendance et le troisième tiers des indifférents. Cela veut dire qu'en fait, cette décision de Philadelphie a été prise par une minorité. C'est cette minorité agissante qui a transformé les relations entre l'Amérique et l'Angleterre et qui en fait a transformé l'histoire du monde. Et alors c'est une décision qui est encore plus courageuse parce que à cette époque, il y avait deux puissances qui dominaient la planète. D'un côté l'Angleterre, de l'autre côté la France. Les deux puissances d'ailleurs se livraient régulièrement à la guerre en Europe, sur le continent américain, en Asie, sur le long des côtes africaines. C'était véritablement des puissances planétaires, ce que l'on pourrait appeler des superpuissances de l'époque. Or, les Américains qui rompent avec l'Angleterre n'ont aucunement la certitude que les Français les aideront. La France est prudente, elle ne tient pas du tout à s'engager dans un conflit qu'elle perçoit encore très mal et dont elle ne voit pas quel sera l'avantage qu'elle peut éventuellement en tirer. La France est donc pour l'instant en dehors de ce conflit, ce qui veut dire que les Américains sont seuls face aux Anglais, face à cette immense puissance impériale qui domine beaucoup de terres à la surface de la planète. Il faut en effet prendre conscience, je crois, de l'importance du geste qu'ils font. Alors évidemment, ce qui les sauve, c'est qu'ils sont de l'autre côté de l'Atlantique et que l'Angleterre a des difficultés pour envoyer des troupes aussi loin. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas non plus une possibilité qui correspond à la technologie de l'époque. Il y a néanmoins beaucoup de troupes anglaises qui sont sur le continent américain. Alors, il reste maintenant aux Américains à prouver que cette indépendance qu'ils viennent de proclamer, ils sont capables de la défendre et qu'ils sont capables, en même temps, d'attirer des alliés, comme par exemple les Français.
quand j'étais dans cet hémicycle dont je vous parlais, j'étais quand même assez impressionné. Il y avait comme l'ombre de ces grands hommes qui ont fait la déclaration d'indépendance, qui l'ont rédigée, qui l'ont préparée, qui semblaient planer au-dessus de la salle. Et vous parliez de la France qui était un peu réservée. Il est évident qu'il y a un homme qui a joué un rôle capital pour faire balancer la France dans le camp des indépendantistes américains. Et c'est évidemment celui qui était l'ambassadeur de la jeune nation en France, Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin n'arrive en France qu'après la proclamation de l'indépendance. L'arrivée de Franklin, c'est de décembre 1776. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Benjamin Franklin va essayer peu à peu de convaincre la cour, de convaincre les ministres du roi, de convaincre le roi, de convaincre l'opinion française telle qu'elle peut exister à l'époque, que les Américains sont des alliés sur lesquels on peut compter. Mais là encore, la France reste prudente. Et la décision française d'entrer dans la guerre date de l'extrême fin de 1777, c'est-à-dire 18 mois après l'adoption de l'indépendance, et les traités franco-américains d'amitié, de commerce, bref, les traités d'alliance, ne sont signés qu'en février 1778.
On peut dire peut-être un mot quand même de celui que l'on crédite comme le rédacteur de la Déclaration d'indépendance. Évidemment, l'homme de Monticello, c'est-à-dire Thomas Jefferson, qui a peut-être un peu trop de crédit d'ailleurs, puisqu'on dit que Madison et Monroe ont également participé assez étroitement à la rédaction du projet.
Oui, mais en fait, on peut quand même estimer que l'essentiel, 90 ou 95% du texte, sont de la main de Thomas Jefferson. Mais Thomas Jefferson est né en 1743, donc quand il rédige la Déclaration d'indépendance, il a 33 ans. Alors évidemment, il aura par la suite une carrière extrêmement brillante, puisqu'il sera ministre des États-Unis à Paris, secrétaire d'État du président Washington, et finalement président des États-Unis pendant 8 ans. Mais à l'époque, c'est un avocat qui représente la Virginie, et qui a lu à la fois les penseurs écossais, les penseurs anglais, des penseurs français, comme par exemple Montesquieu. Et quand aujourd'hui nous relisons la Déclaration d'indépendance, nous nous apercevons qu'il y a deux parties très nettes. La première partie, le préambule, exprime un certain nombre de principes généraux qui sont neufs à l'époque, neufs dans les documents politiques, mais qui ne sont pas neufs dans les documents philosophiques. Les principes de liberté, qui est neuf éventuellement, c'est la volonté de rechercher le bonheur. C'est une notion qui est relativement nouvelle. Et puis la deuxième partie, elle est faite de toute une série de récriminations que les colons expriment à l'égard de l'Angleterre. Alors, ils l'expriment surtout à l'égard du roi, c'est-à-dire qu'ils essayent de montrer pourquoi il est nécessaire de rompre avec la métropole. Au fond, la Déclaration d'indépendance, elle est faite à la fois pour un usage interne, c'est-à-dire les colons disent les raisons pour lesquelles ils souhaitent établir des États, mais elle est faite aussi pour des raisons externes. Ils annoncent au monde la naissance d'une nation et les raisons pour lesquelles cette nation est née.
Pour annoncer la naissance de cette nation au monde, on a fait sonner la fameuse cloche de la liberté. On ne peut pas aller à Philadelphie sans voir la cloche de la liberté, dont la réputation est peut-être un peu excessive, parce qu'il semble que ce cadeau de l'Angleterre était finalement, si on peut dire, un rossignol, puisque finalement on n'a pas très bien sonné tout compte fait.
Non, on dit même que la cloche de la liberté n'a pas sonné du tout.
Hein. Ah bon ?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une invention postérieure. Mais il est évident que les cloches ont certainement sonné dans les villes des colonies pour annoncer la grande nouvelle, puisque c'était la manière, à l'époque, par laquelle on diffusait l'information.
En tout cas, cette cloche est assez imposante. Elle fait 3 mètres de diamètre. Elle pèse quelque chose comme une tonne. Et elle avait été fabriquée à Londres. Elle avait été envoyée à Philadelphie. On l'avait fait sonner. Elle a quand même fait sonner de temps en temps pour le 50e anniversaire de la fondation de la Pennsylvanie, au moment où la Pennsylvanie était encore une colonie britannique. Et puis, elle a sonné apparemment quand même au moment de la proclamation de l'indépendance. Mais après, il y a eu cette fameuse fissure qui est très visible et depuis on n'a fait plus guère sonner, sinon dans des circonstances absolument extraordinaires comme la fin de la guerre mondiale, de la deuxième guerre mondiale, et je crois qu'elle a sonné aussi à l'occasion du bicentenaire de l'Amérique.
Il faut la ménager.
Oui, absolument, et on l'aménage d'ailleurs, on ne vous donne pas le droit de la toucher lorsque vous la voyez, elle se trouve maintenant dans une sorte de galerie de verre, c'est un objet d'une grande vénération, mais enfin, c'est tout de même un grand symbole et nous ne pouvions parler de Philadelphie sans mentionner la cloche de la liberté.
Come, let us drink about and drive away all sorrow. Come, let us drink about and drive away all sorrow. For perhaps we may not, for perhaps we may not, for perhaps we may not to drink again tomorrow.
André Caspi, je voulais vous demander, j'ai également visité lors de cette visite à Philadelphie une taverne, le City Tavern, qui est une réplique, mais extrêmement fidèle de la taverne de l'époque. Je voudrais, avant de nous quitter, que vous nous parliez un petit peu du rôle de la taverne à cette époque, parce que ce soit à Williamsburg, que ce soit à Philadelphie et dans d'autres hauts lieux de l'histoire du XVIIIe siècle, la taverne a tout de même joué un rôle très particulier. C'est un lieu de rassemblement, de réunion.
La taverne, c'est le lieu du débat. C'est-à-dire que c'est là que les hommes se rencontrent, c'est là qu'ils échangent des idées, c'est là qu'ils forment des alliances, c'est là qu'ils créent des partis et qu'ils se préparent à l'action politique. Je dirais que c'est une tradition. Alors c'est vrai pour les tavernes du XVIIIe siècle, c'est vrai pour les saloons du XIXe siècle, aussi bien dans le Far West, et ça on les connaît par le cinéma, que sur la côte Est. Dans les saloons du XIXe siècle se tenaient les permanences des partis politiques. Et c'est la raison pour laquelle les saloon keepers, donc les tenanciers de saloon, jouaient un rôle particulier dans la vie politique. Alors les tavernes, c'est l'ancêtre des saloons, et je crois que ça tient au fait que les demeures des uns ou des autres sont assez distantes les unes des autres, et que la taverne, c'est un lieu dans lequel on peut se rassembler en ville avant de la quitter pour rejoindre, par exemple, l'assemblée dans laquelle on siège ou bien le tribunal dont on est membre.
Mais on y menait aussi bonne vie, on y faisait ripaille.
On y boit, on y fume, c'est fait pour.
Mais et on y chante.
On y chante aussi, mais enfin disons que l'essentiel est quand même constitué par ce qu'on y dit. Et en ce sens, c'est un endroit extrêmement important, puisque à une époque où il existe des journaux, bien sûr, mais où ils n'ont pas la diffusion d'aujourd'hui, et où les journaux, rares soient-ils, constituent véritablement le seul moyen d'information, la taverne, c'est aussi un lieu d'échange.
Les tavernes seront pleines ce 4 juillet 1776, après que les délégués des 13 colonies aient finalement approuvé la déclaration d'indépendance. Elle sera lue en public le 8 et le 9, le général George Washington en fait donner lecture à ses troupes, car ne l'oubliez pas, la guerre avec les troupes anglaises a déjà commencé un an avant. Le document est finalement signé le 2 août. Et curieusement, la cérémonie ne se déroule pas dans une atmosphère d'exaltation, mais de funérailles. En apposant leur nom au bas du parchemin, les signataires, en faisant grincer la plume sur le papier, se demandent s'ils ne sont pas en train de signer leur arrêt de mort. Une petite fête aura lieu tout de même en 1777 pour célébrer le premier anniversaire de la déclaration. Mais il faudra attendre 50 ans, le 4 juillet 1826, pour que la fête nationale soit enfin institutionnalisée. Depuis, les Américains se sont bien rattrapés. À travers tout le pays, défilés, pique-niques, concerts et feux d'artifice.
Washington, la voix de l'Amérique.